Sentier de Droit-Thomont. Des paysages, des animaux, des plantes et des hommes. Chacun d'entre nous, hommes, animaux et plantes, est un maillon de l'immense chaîne de la vie. Une chaîne infinie mais fragile. Les habitants des villages, du monde rural, connaissent mieux que les citadins le lien fort entre les hommes, les animaux et les plantes. Mais cette interdépendance s'applique à tous, jeunes et seniors, enfants des villes et des champs. Chaque animal, chaque plante a une utilité, un rôle pour la vie de tous les autres. Même les plantes les plus rares et les animaux les moins nombreux ont une place nécessaire et, à ce titre, ils méritent d'être connus, identifiés, respectés et parfois protégés. Car la disparition de l'un d'entre eux déséquilibre l'ensemble de l'écosystème. Les plantes font respirer la planète, fixent le carbone, purifient l'air, conservent l'humidité des sols, nourrissent les animaux et l'homme. Les animaux nettoient les champs, les bois et les cours d'eau. Ils aèrent le sol, favorisent les plantations et la croissance des végétaux. Et à leur tour, ils nourrissent d'autres animaux dans la chaîne alimentaire qui, en fin de cycle, nourrissent les grands prédateurs dont l'homme fait partie. Et les plantes, comme les animaux, souvent plus vertueux que les hommes, nettoient et réparent le monde des déchets et des dommages que l'homme a générés en les élevant, en les cultivant et en les consommant. La faune et la flore du marais de Droit-Thomont sont juste à côté de vous. Ils vous attendent et certains vous observent déjà. Comment appréhender le parcours ? Tu penses savoir observer, comprendre, apprécier un paysage simplement en le regardant ? Pas sûr, car les paysages que tu vas traverser et découvrir ici, à Droit-Thomont, se révèlent aussi en les écoutant, en respirant leurs odeurs, et sur le sentier du marais, fais le plein d'essence. En deux mots. Le marais de Droit-Thomont, la zone humide s'étend sur 50 hectares, constitue aujourd'hui un ensemble de milieux très riches, roselières, mares, bois, prairies, et un habitat de très grande valeur écologique pour plusieurs espèces rares et protégées. Nous avons aux endroits stratégiques de l'itinéraire aménagé des haltes. Installe-toi, fais silence, entre dans un monde de légendes et écoute les lutins cogneurs, Prunella la sorcière, la fée poudrière, les ondines, les faunes et le géant endormi. Long de 1,7 km, le sentier de Droit-Thomont ne présente aucune difficulté particulière et accessible à tous. L'équipement conseillé, des chaussures de marche, une veste coupe-vent avec capuche et idéalement une paire de jumelles. Le parcours est jalonné par 7 points d'arrêt symbolisés par des sculptures en acier Cortin en référence à l'ancienne mine de fer et sur lequel les visuels sont parfois gravés ou découpés au laser. Les indices. Attention, le marais est habité. Tu ne pénètres pas dans un désert, mais dans un territoire dont les habitants, nombreux mais discrets, se méfient de toi et se cachent. Demande à la sorcière, au géant, au lutin, à l'ondine, à la fée et aux faunes que tu vas peut-être croiser sur ton chemin, de te mettre sur leurs traces. Et si tu sais les mettre en confiance, ils te confieront les secrets du marais et de la mine. Depuis des millénaires, les lutins cogneurs extrayaient le minerai de fer du sous-sol de Droit-Thomont. Ils balayaient les accès à la mine avec de petites pyramides de pierre, des cairns. Aujourd'hui, les galeries se sont effondrées. Les lutins vivent maintenant dans de hautes herbes qui croulent sous le vent comme une immense mer verte. Ils s'y prélassent en compagnie d'une myriade d'insectes au nom insolite. Le cuivré démarré et le criquet ensanglanté. Mais leur tranquillité est interrompue une fois par an, le jour de la grande fauche, où l'herbe est coupée pour nourrir les animaux de la ferme voisine. Dans le champ d'à côté, c'est souvent chamboulé, Le sol est labouré, retourné, ratissé, semé, afin d'y cultiver les plantes nécessaires à la nourriture des hommes et des animaux. Un endroit trop agité pour le peuple de la prairie. La minette de Lorraine. Extraite à l'échelle artisanale dès le 7e siècle, son exploitation industrielle n'a réellement commencé qu'au milieu du 19e siècle, après que les maîtres de forge, ancêtres des usines sidérurgiques, aient résolu les problèmes techniques posés par sa forte teneur en phosphore. Ce minerai de fer a fait la fortune de la Lorraine de l'époque qui, au début du XXe siècle, était la deuxième région de production du monde. Et puis, progressivement, les mines ont cessé de produire. Et les dernières mines de fer de Lorraine ont fermé dans les années 90. Il était une fois la mine de fer. Elle a longtemps créé ici l'activité économique, l'emploi, aménagé la ville, apporté la richesse, et puis elle a fermé. Petit à petit, ses galeries se sont effondrées, donnant naissance au marais, à sa faune, à sa flore, en façonnant de nouveaux paysages. La mine de fer de Droitaumont a commencé à être exploitée en 1911. Elle produisait 700 tonnes par jour de minette, le minerai de fer le plus répandu en Lorraine, à 238 mètres de profondeur. Pour abriter un personnel nombreux, venu souvent de l'étranger, de l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, la Pologne principalement, les premières cités ouvrières furent bâties en 1913 à Moulinel et Droitaumont. La mine a connu son apogée en 1960 avec une production de 1 300 000 tonnes. Droitaumont a fermé en 1986 avec ses derniers 180 salariés. C'est l'affaissement d'une partie de la mine dans les années 50 qui est à l'origine de la formation du marais. Les vides créés par le creusement des galeries se remplissaient d'eau d'infiltration, ce qui pouvait causer de nombreux problèmes pour l'exploitation et la sécurité des hommes y travaillant. Pour pallier à cela, des pompes géantes ont été installées dans les mines afin de remonter à la surface cette eau, appelée ainsi eau d'extraure. L'interruption des pompages a entraîné l'ennoyage des galeries avec parfois d'importantes répercussions en surface. Le champ et la prairie. Pour observer la nature, il faut faire silence, écouter, être attentif, savoir regarder, voir. En observant loin, pour lire le paysage. En se concentrant auprès, voire au très près, pour découvrir et comprendre comment la vie discrète, cachée du sentier de Droitaumont, nous concerne tous. Qu'est-ce qui fait la différence entre une prairie et un champ? L'intervention, le travail de l'homme qui modifie la flore en bouleversant l'habitat des animaux, mais pour une bonne cause, nourrir les habitants. Le champ. Valorisé par le travail des agriculteurs, ici aux portes de Jarny, le champ est un espace de production alimentaire pour le bétail et pour l'homme. Il n'en abrite pas moins une faune typique que notre lutin vous invite à rencontrer. L'alouette des champs. Elle fait son nid au sol, très souvent dans les cultures. On entend le mâle lorsqu'il chante en papillonnant au-dessus de son territoire. Le lièvre. On le différencie du lapin par les longues oreilles à la pointe noire et il laisse des traces de son passage au bord des sentiers. On l'appelle cuivré des marais de par la couleur du mâle. Rare et protégé en Europe, ce papillon se plaît dans les marais de Droitaumont où il peut se reproduire et se nourrir. À peine plus gros qu'une pièce de 2 euros, on l'observe en juin-juillet virevolté au-dessus des hautes herbes. La prairie. La prairie, c'est la nature au naturel. Elle est moins civilisée, moins policée que le champ. Riche d'une flore variée, libre, elle abrite dans ses hautes herbes, notamment pendant l'été, de nombreux animaux qu'il faudra regarder de près. Comme le criquet ensanglanté, qui tire son nom de la couleur de ses pattes, Il possède des antennes courtes, contrairement aux sauterelles, dont les antennes sont plus longues que le corps. La haie. La haie est un véritable couteau suisse. Tantôt brise-vent, c'est aussi un parasol naturel pour les animaux sauvages et le bétail. Elle purifie les eaux qui ruissellent et limite l'érosion des sols. Source de biodiversité, elle abrite de nombreuses espèces dont certaines limitent la prolifération des ravageurs de cultures. Autrefois, mais il n'y a pas si longtemps, une sorcière habitait dans ses fourrés d'aubépines et de prunelliers. Pour jeter des sorts, elle préparait élixirs et poisons, faisant bouillir dans son chaudron de drôles ingrédients. On raconte qu'elle rôde encore autour du mari. On la reconnaît car elle a un petit crapaud sur le blanc de l'œil, contre la prunelle ou au pli de l'oreille. Entre à pas de loup dans le repaire de Prunelia et installe-toi. Si tu ne fais aucun bruit, tu pourras sans doute apercevoir les habitants de la haie, à moins que ce ne soit eux qui t'observent déjà. La pigrièche écorcheur. Elle chasse à l'affût à partir de perchoirs. Les proies qu'elle capture, des gros insectes, des petits oiseaux ou de micro-mammifères, sont régulièrement empalées sur des épines ou des fils de fer barbelés, d'où le nom écorcheur. Ses lardoires lui servent de garde-manger et permettent aux oiseaux de dépecer ou stocker leurs proies pour les jours difficiles. Le bruant jaune. Il niche dans les branchages. On le trouve fréquemment posé au sommet de la haie pour parader. La pigrièche écorcheur, facilement reconnaissable à son bandeau noir sur les yeux, façon gangster, on peut l'observer au sommet de la haie ou posé sur la clôture qui longe le sentier. Le troglodyte mignon, il parcourt la haie tout près du sol, toute l'année, à la recherche de petits insectes à picorer. À ton approche, il n'est pas rare qu'il joue à cache-cache dans le tas de bois morts. Et le renard, il trouve dans l'haie un refuge pour pouvoir y dénicher quelques rongeurs en toute discrétion. Le marais. Il y a bien longtemps, non loin d'un géant à la force extraordinaire, des lutins vivaient dans les profondeurs de la terre. Ils exploitaient la mine sans relâche. Ils cachaient leur trésor, un monde souterrain, en perpétuel mouvement. Mais une nuit, le géant en eut assez de ce remue-ménage incessant. Ce fut le chaos, le grand fracas. Les tunnels, les chemins et les galeries, écroulés, effondrés, pulvérisés, devinrent fissures et gigantesques failles. Les rivières s'y engouffrèrent, à la surface le cours d'eau devint étang. Les cultures et jardins se transformèrent en marais, prairies et roselières, fourrées moites et feutrées. Aujourd'hui, c'est un refuge grouillant de vie et l'on entend une fois par an carillonner les trésors engloutis. La migration. À l'automne, les grues cendrées traversent le ciel du marais de Droitaumont pour effectuer leur migration vers des contrées plus chaudes. Parfois, au printemps, pendant leur voyage de retour, elles profitent de la quiétude des lieux pour effectuer une halte. Tu les reconnaîtras facilement à leur chant bruyant et à leur vol caractéristique en V. Cette méthode aide les oiseaux à couvrir de longues distances. En effet, la position de tête, plus fatigante, est occupée tour à tour et l'effort dépensé est ainsi réparti sur tout le groupe. L'habitat idéal. Les marais sont des milieux en constante évolution. Sans l'intervention de l'homme, ils s'assèchent progressivement. Ici, à Droitaumont, le choix a été fait de ralentir cette évolution naturelle en limitant le développement de la végétation. C'est pourquoi on voit encore des pièces d'eau qui abritent de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques que tu pourras observer, même sans jumelles. Comme la sarcelle d'hiver. Elle est plus petite que le canard d'eau. À la saison des amours, le plumage du mâle se pare d'une longue bande verte métallique sur sa tête rousse. peu fréquente sur le marais de Brois-Thomont, on peut néanmoins l'observer lorsqu'elle fait escale sur le site pendant sa migration hivernale. Le foulque. Derrière ce nom barbare se cache l'un des oiseaux d'eau le plus commun de nos marais et étangs. Grande poule d'eau noire, au bec et au front blanc, on le croise à coup sûr sur le marais de Droit-Thomont. Quand on ne l'aperçoit pas, on l'entend. C'est une espèce bruyante qui produit un méli-mélo de cris métalliques au rythme de leur chamaillerie fréquente. La grande aigrette. Il y a 30 ans, la présence de la grande aigrette était exceptionnelle en Lorraine. Aujourd'hui, elle est devenue commune. L'espèce étant rarement nicheuse dans notre pays, l'essentiel des individus que nous observons sont nés en Europe de l'Est et à la faveur du réchauffement climatique, ils sont de plus en plus nombreux à rester dans notre région pour hiverner. Le grèbe castagneux. Il est plus petit et le plus trapu des grèbes. Il est à peine plus gros qu'un caneton. On l'identifie facilement à sa petite tête ronde qui présente une tache blanchâtre à la commissure du bec. La grèbe huppée, c'est le plus grand des grèbes. Avec sa haute huppe noire, il est facile de le reconnaître. Au printemps, il arbore une collerette de plumes rousses et noir de chaque côté de sa tête. C'est la pleine saison des amours. Vous aurez peut-être la chance de l'observer pendant sa parade nuptiale, où le mâle et la femelle se font face, dressant le cou et dansant de concert avec une touffe d'algues dans le bec. Les faunes sont malicieuses. Ils débordent d'énergie et vont parfois jusque dans les maisons pour jouer des tours aux humains. Dans les roselières et sous les saules, à la tombée de la nuit, ils ferment la ronde, ils forment des rondes, sautent et dansent ensemble jusqu'au matin. C'est pourquoi on trouve parfois sur le sol des cercles mystérieux qui ont des pouvoirs magiques. Si l'on s'y arrête, les yeux fermés et en tendant l'oreille, on peut parfois encore entendre les mélodies et les rythmes de leur danse folle. Au cœur de la Soulée, on pénètre dans l'un des territoires les plus reculés du marais, loin des hommes. Sois discret et attentif pour découvrir ses habitants et ressentir l'âme des lieux. Assieds-toi sur les cercles laissés par les faunes et prends le temps d'écouter, respirer la nature. En suivant le chemin qui part sur ta gauche, tu rejoindras les habitants de la roselière, des roseaux où il fait bon vivre. La roselière est constituée de milliers de tiges de roseaux reliées entre elles par des racines appelées rhizomes. Ainsi, toutes ces tiges n'appartiennent en fait qu'à quelques individus distincts. Autrefois, les roselières était souvent considéré comme insalubre. Pourtant, dans leurs racines se développe une quantité innombrable de bactéries qui épurent l'eau en digérant les matières organiques en suspension. Les roseaux, eux, fixent de nombreuses substances chimiques dissoutes. Véritable labyrinthe, la roselière constitue également un refuge apprécié où cohabitent de nombreuses espèces animales terrestres, aquatiques et amphibies. De mai à septembre, on croise le Calopteryx éclatant, une libellule vert métallique, aux ailes noires, qui chasse le long de la Soulée et au bord de la rivière. Si vous croisez un lézard dans la roselière, c'est à coup sûr le lézard vivipare, car cette espèce est la seule à fréquenter les milieux humides. Discrète petite sauterelle, le conocéphale des roseaux stridule joyeusement, camouflé dans les feuilles des roseaux. La Soulée. En suivant les pas japonais laissés au sol par les faunes, tu arrives dans l'auditorium du marais du Droit-Thomont. Prends place sur les gradins de bois et tends l'oreille. Selon le moment de la journée, la météo ou la saison, chaque représentation est unique. Alors, nous avons les grues, chorales scandinaves, en novembre, le jour et la nuit. La grue musicienne, tout l'hiver, pendant la journée. La chanson du renard, en janvier, mais la nuit. Il y a concerto aussi pour grenouilles, héraldo, c'est au printemps, le jour comme la nuit. Un orchestre au complet, c'est-à-dire une symphonie estivale, tout l'été, le jour comme la nuit. Le moustique ou le cauchemar du marais, tout l'été au crépuscule. Et les trilles du rossignol, tout l'été, la nuit. Au cœur de la soleil, on se sent loin des hommes. Pourtant, en prenant le temps d'écouter, on perçoit de nombreux sons produits par la présence et l'activité humaine. En effet, aujourd'hui, il n'existe pas d'endroit sur Terre qui soit exempt de sons issus des moteurs. Ce constat est établi par des audio-naturalistes, des professionnels, chargés d'enregistrer les sons de la nature que nous retrouvons notamment dans les documentaires animaliers. D'un geste puissant, la fée poudrière a fait jaillir la forêt pour donner de l'ombre et fournir le bois nécessaire à la mine. Sous terre, aux côtés des lutins, elle veillait au bon déroulement des explosions. Mais la fée poudrière est aussi musicienne. Douce et gracieuse, elle vit en harmonie avec les animaux et le petit peuple du marais. Elle veille sur les arbres et ne sort jamais des profondeurs de la forêt. Elle y assemble des morceaux de bois et de terre cuite pour en faire des carillons au son mélodieux. Du haut des arbres, elle observe les promeneurs et l'on entend parfois sa voix douce, et l'on entend parfois sa voix douce et triste mêlée au son du vent dans les arbres. Autrefois, le bois de la cartoucherie était en partie une peuplerie. Jamais exploitée, ces peupliers sont aujourd'hui de vieux arbres qui dépérissent et meurent de vieillesse. Leur tronc offre le gîte et le couvert pour les piquets-pêches. Leurs branches mortes attirent de nombreuses espèces d'insectes, comme le capricorne, dont la larve se nourrit de bois. Lorsque le bois mort tombe au sol, il est décomposé par une multitude de petits animaux, de champignons et de bactéries, qui le transforment en humus, le compost de la forêt. Au début, les galeries des mines de fer étaient renforcées par des structures en bois de feuillus, en chêne, en charme. Et pour renforcer la sécurité, les lutins cogneurs ont, à grands coups de pique, intercalé entre elles des bois de résineux plus fragiles comme du sapin, de l'épicéa, dont les craquements, signal d'un risque imminent d'effondrement, donné aux mineurs le temps de quitter la galerie. On l'appelait le bois d'alerte. Dans les bois, c'est le jet des chaînes qui donne l'alerte. Lorsqu'il entend ou aperçoit un visiteur, il produit un cri rauque et puissant. Le berceau de l'Ondine, la rivière. Ondine, une jeune femme au corps souple, aux longs cheveux noirs et aux yeux verts, vit dans les eaux de l'Iron. On entend parfois au petit matin des éclats de rire lorsqu'elle s'amuse avec les faunes. C'est une grande voyageuse. Elle fabrique des petits radeaux de bois qu'elle décore de gui, de rubans, de brindilles tressées et de cailloux extraits de la mine. Elle les abandonne ensuite sur le courant du Liron et les suit en chantant au gré des rivières et des fleuves jusqu'à ce qu'ils atteignent la lointaine mer du Nord. Prends place sur la passerelle qui enjambe Liron et observe le courant qui les entraîne dans un long périple. L'eau qui s'écoule sous tes pieds à travers le marais de Bratemont, égarée dans le labyrinthe dense de la Roselière, c'est une expérience qui l'a transformée et a ralenti sa course. Pendant ce temps, elle a été épurée par les bactéries et les racines des roseaux. Elle aura également permis à de nombreuses espèces de respirer son oxygène dissous, de s'y nourrir et de s'y reproduire. La bouvière est un petit poisson vivant dans les eaux dormantes du marais de Droitaumont. Sa présence est intimement liée à celle de la moule d'eau douce. En effet, la femelle dépose ses œufs à l'intérieur de la coquille de la moule. Au bout d'une quinzaine de jours, les œufs vont éclore et les alevins vont progressivement quitter leur hôte protectrice. Cette relation insolite profite aux deux espèces. Les alevins se nourrissent en nettoyant l'intérieur du mollusque et profitent de sa protection. La moule dépose sur les alevins des larves minuscules qui pourront ainsi être disséminées sur de longues distances. L'eau poursuit son long périple pendant des milliers de kilomètres. Dans l'Orne, elle fera la joie des pêcheurs du dimanche. Dans la Moselle, elle permettra le transport fluvial des marchandises. Dans le Rhin, elle produira de l'électricité et sera le témoin de la rude migration des saumons sauvages. Et arrivée en mer du Nord, elle y résidera en moyenne quelques milliers d'années avant de s'évaporer et de retomber au gré des vents sur le continent sous la forme de précipitations. Le fer et la Lorraine. Le Moyen-Âge voit des bas-fourneaux se développer en Lorraine avec un début d'industrialisation de la production. Des traces d'une exploitation du 8e siècle subsistent au sud de Nancy. En 1704, Jean-Martin Wendel, fondateur de la dynastie des Wendel, acquiert la forge de la Rodolphe à Hayange. La proximité des mines de fer et en particulier de la minette, va lancer la sidérurgie lorraine. Son gisement s'étend sur 40 km de large et 100 km de long, entre le nord de Longwy et le sud de Nancy. Le gisement lorrain, estimé à 6 milliards de tonnes, est au milieu du 19e siècle l'un des plus riches du monde. La Lorraine est alors la deuxième région de production mondiale après les États-Unis. Après une première étape de développement avant la guerre de 14-18 et entre les deux conflits mondiaux, les années 50 voient naître les géants industriels, Solac et Saint-Cylor notamment. Dès le début des années 60, les sidérurgistes commencent à importer des quantités croissantes de minerais d'outre-mer d'une meilleure teneur en fer, environ 60%. La mise en œuvre de nouvelles technologies, le coût de la main-d'œuvre, la priorité donnée aux usines situées sur la façade maritime vont conduire à la fermeture de nombreuses unités de production de Lorraine. L'impact de la guerre du Kippour en 1973 sur les coûts de l'énergie va achever la fragilisation de la sidérurgie lorraine et conduire à la fermeture progressive de la majorité de ses installations. Seules quelques unités de production subsistent aujourd'hui. Elles font appel aux technologies les plus innovantes et figurent parmi les plus performantes au monde dans leur spécialité. En 150 ans d'exploitation, on aura extrait du sous-sol 3 milliards de tonnes. Quand Sidney Goldschrist Thomas faisait décoller la sidérurgie lorraine. En Lorraine, 252 concessions minières ont été accordées pour l'exploitation de la minette de Lorraine, un minerai de fer très abondant, relativement facile d'accès, mais présentant une faible teneur en fer, 30%, et une forte teneur en phosphore, 1%. Son exploitation à grande échelle n'a pu se faire qu'après la mise au point du procédé Thomas en 1877. En effet, l'affinage de la fonte par le seul procédé connu de l'époque, le convertisseur Bessemer, non adapté aux minerais lorrains, produisait un acier bon marché mais cassant à cause du phosphore encore présent. La solution viendra de Sidney Gilchrist Thomas qui, en améliorant et en adoptant le convertisseur Bessemer, permit de déphosphorer la fonte et ainsi produire un acier de qualité. Lors de la transformation de la fonte en acier dans le convertisseur Thomas, un déchet est produit, les scories. Ce déchet sidérurgique permettait une concentration importante en phosphore et sera utilisé en agriculture en remplacement des engrais phosphatés importés et très chers à l'Europe. Le convertisseur Thomas est un outil symbole de la révolution industrielle en Lorraine.